Bienvenue à Radio Renard, le podcast pour créer du mouvement dans sa vie. Chez Renard, on aime repenser la vie active et ses toutes sortes d'idées pour améliorer le quotidien. Je m'appelle Marc-Claude Lasserte. Chaque semaine, découvrez avec nos invités tout ce qui est possible de faire pour bouger à votre façon. Bonne écoute! Bon matin, Sarah.
Bon matin.
Je dis bon matin parce que je pense que c'est notre record de... C'est le podcast le plus tôt qu'on a fait. Et c'est pas si tôt, il est 8h ce matin. Merci d'être avec nous.
Ça fait plaisir.
On a découvert qu'on était voisines. Et en plus, ton commerce est dans le quartier.
Tout à fait.
Tu as le café et l'atelier poterie Les Faiseurs. J'ai découvert par ta magnifique campagne de socio-financement qui a été super populaire. Et je passe toujours devant à pied ton café. Je suis toujours contente de voir que c'est vraiment bien achalandé. Est-ce que pour les gens qui nous écoutent, tu pourrais nous faire une visite auditive justement de ton espace?
Oui, tout à fait. Dans le fond, on est situé sur le boulevard Saint-Laurent, entre les rues Beaubien et Saint-Eutique. C'est comme un grand local commercial qui a comme une double façade un peu, fait que vraiment... Sur la rue, on voit le café et l'école de poterie. La porte principale qu'on utilise, c'est vraiment la porte qui donne sur le café. Donc, quand on rentre, il y a comme un mur vitré tout de suite à notre droite. Mais quand on rentre dans le café. Donc, il y a l'espace avec les tables, il y a le comptoir à l'arrière. Excuse-moi. Et il y a une section boutique où est-ce qu'on présente le travail d'artistes céramistes québécois. On change d'artiste, on a 3 artistes par saison, donc on change d'artiste pour présenter différentes choses, puis inspirer les gens. Puis dans le fond, à droite, à travers la paroi vitrée, bien, on voit vraiment le local avec les tours, les murs recouverts de pièces que nos étudiants font. Fait que, ouais, c'est comme ça. C'est un local très lumineux, là, avec des fenêtres plein pied, fait qu'il y a beaucoup de lumière qui rentre, puis vraiment quand même orienté sur la céramique puis la créativité. Tu sais, même dans le café... Les gens, évidemment, qui viennent sont pas obligés de faire de la poterie. C'est vraiment, il y a quand même un mur, une séparation. Mais on voit, de partout, on voit les gens qui travaillent au studio. Fait qu'il y a toujours un peu cette activité manuelle-là qui est comme mise de l'avant pour les gens.
Puis c'était vraiment dans l'aménagement, c'était voulu comme ça. J'imagine qu'il y ait comme une espèce de séparation, mais intégration.
Oui, exactement. C'est sûr que quand j'ai ouvert, moi, j'étais un peu... j'essayais de me dissocier de l'idée de café céramique qu'on a un peu en tête, tu sais, où est-ce que les gens vont vraiment aller là seulement pour faire l'activité de céramique. Donc, moi, c'est vraiment un lieu où est-ce que les gens viennent travailler, étudier comme dans un café normal, mais ils ont la vue sur le studio de céramique. Fait que je voulais que ça soit comme connecté, que ça communique, que ça se parle, mais qu'on se sente pas non plus obligé d'aller se mettre les mains dans la terre quand on rentre dans ce café-là. Fait que c'était important pour moi qu'on comprenne vraiment les deux espaces. Ça faisait partie de ma recherche de locaux aussi, de vraiment trouver quelque chose qui aurait comme 2 vitrines pour pas choisir de mettre à l'avant soit le café ou la poterie. Je trouvais que c'était important de pouvoir mettre les deux côte à côte.
Puis on le voit super bien de la rue. Puis les gens, justement, qui sont comme un peu plus timides ou frileux, qui vont prendre un café, est-ce que tu as des témoignages, justement, que ça leur a donné envie d'aller traverser
beaucoup.
L'autre côté?
C'est vraiment le fun parce que, tu sais, à la base, c'est sûr que c'est comme un peu plus l'inverse. Dans les premiers mois qu'on voyait, tu sais, les gens les gens rentraient parce qu'ils étaient intéressés par la poterie, puis ça donnait peut-être qu'ils prenaient un café, mais à la base, l'attrait était vraiment là. Puis avec le temps, ma clientèle s'est bâtie, puis j'ai eu des réguliers au café, qui ont vraiment, à la base, je pense, pas d'intérêt pour la poterie, qui là, finalement, j'y vois, à force de voir les gens travailler, ben là, ils s'inscrivent, ou des fois, on fait des petites journées portes ouvertes qui sont comme juste des essais, ben là, ils viennent. J'ai un monsieur qui vient tous les jours boire un espresso. À un moment donné, un vendredi soir, il est venu faire de la poterie avec sa blonde, puis je trouvais ça vraiment le fun, tu sais, je me suis dit, ah, ça y a tenté parce qu'il voyait tout le temps les gens le faire, fait que, ouais.
Puis surtout que dans ton café,
ça
quand
change.
C'est servi dans votre collection à vous. Je pense qu'il y a quelque chose de le fun de revenir à des objets comme uniques. Moi, c'est comme
fait
ça.
Fait
à la main. Puis quand tu manges ta poterie ou tu prends ton café, puis ton ami à côté prend aussi. Les tasses sont pas pareilles, mais il y a votre touche parce que vous avez une
esthétique bien à vous. Dans le fond, on a une collection qui a été développée, qui est fabriquée par Marie-Ève Dompierre, dans le fond, qui est une céramiste montréalaise qui a un atelier sur Jarry. On a développé la collection ensemble en utilisant un peu mon image de marque. Puis c'était ça un peu le but, que toutes les tasses, c'est comme un peu une forme de anse différente, quelque chose d'un peu original qui nous différencie vraiment des autres cafés. Fait que oui, effectivement, même les gens qui viennent juste prendre un café, ils font toujours un commentaire sur les tasses, ils vont toujours comme « Ah oui, c'est beau, c'est qui les fait, c'est fait à la main », tu sais, on ressent quand même l'intérêt vers le fait à la main de notre vaisselle.
Est-ce que, toi, c'est quoi qui t'a interpellé vers la poterie initialement? Tu te rappelles-tu en fait du moment où tu as découvert cette activité-là?
Oui, parce que moi, dans le fond, je suis pas céramiste professionnelle. J'en fais vraiment pour le loisir. Et j'en ai fait une entreprise, mais je suis vraiment pas... j'ai pas une collection de céramique que je fais moi-même, une série ou quoi que ce soit. Fait que c'était il y a... Maintenant, ça doit faire 5 ans que j'avais vu des vidéos, puis je suis quelqu'un qui est toujours un peu à la recherche de nouvelles activités à essayer et tout. Fait que là, j'étais vraiment partie là-dessus. Je voulais essayer la céramique, la poterie. Fait que j'avais participé à un petit atelier d'initiation. C'était comme un petit 5 à 7 avec ma cousine puis une amie. On en a fait, puis j'ai vraiment trippé, là. J'étais comme, ah oui, j'adore ça, c'est sûr que je veux continuer. Fait qu'après, je me suis inscrite à des sessions de cours.
Okay.
J'ai commencé à en faire dans le fond de soir, là, un soir par semaine. Puis j'aimais vraiment, vraiment ça. Puis je me disais qu'il fallait que tout le monde essaye ça.
Qu'est-ce que t'as aimé de l'activité?
C'est vraiment le fun de créer quelque chose avec ses mains de cette façon-là. C'est vraiment quand même... ça pratique beaucoup comme laisser aller le détachement un peu parce que c'est quand même difficile. En tout cas, pour moi, il y a des gens qui ça fait ressortir plutôt... Ça leur met de la pression de pas être bon, mais pour moi, c'était comme... ah, tu sais, c'est pas grave. Comme on est là pour... Je suis là pour avoir du plaisir. Puis même si mes créations étaient pas magnifiques, j'avais quand même vraiment un sentiment de fierté à la fin. Puis c'est très... c'est très, très sensoriel. Il faut vraiment être concentré sur qu'est-ce qu'on fait. Fait que quand on a des emplois de jour ou qu'on a comme une vie tellement occupée, ben là, ça fait vraiment comme focus sur le moment présent. Tu peux pas être en train de penser à autre chose parce que le moindre petit mouvement de main que tu fais va se répercuter sur ta pièce. Fait qu'il faut vraiment que tu sois concentré sur ce que tu fais. Fait que c'est vraiment ça qui m'avait attirée.
De déconnecter. Parce que si je comprends bien, tu faisais du tournage?
Oui.
C'était au tournage. C'est pour ça qu'il faut être concentré parce que, comme on le voit souvent dans les films, là, quand il y a des il y a des reprises humoristiques du film Ghost, là, dès que tu t'accroches, ça peut tout détruire.
Exactement.
Est-ce que tu étais fan aussi du façonnage?
À l'origine, pas particulièrement. Là, j'ai vraiment fait comme 2 sessions de tournage, puis je me suis acheté un tour, puis c'était vraiment ça qui m'attirait plus. Avec le temps, c'est sûr que j'ai vu comme l'intérêt du façonnage, mais pour moi, ça reste encore comme le tournage qui est plus ma passion, disons.
C'est fun de voir comment chaque personne a un peu la relation à l'argile, la façon de créer. Genre, on a tous des trucs qui vont nous interpeller plus que d'autres pour différentes raisons. Je pense que le façonnage, on a invité au podcast Emily Coquille.
Ouais.
Elle, j'avais découvert, j'avais vu passer un article de façonnage à sensoriel, genre. Ouais. Je trouve ça tellement spécial, là, de juste dire, OK, on n'est pas là pour créer un objet, on est là juste pour mettre les mains dans l'argile.
Oui.
Puis avec quelque chose d'un peu libérateur.
Une différente approche.
Comme tu dis, j'imagine qu'il y a des gens qui sont tellement attachés au résultat que ça devient stressant. Au lieu d'être un loisir, tu sais, ça devient un élément de performance, encore une fois.
Oui. Mais je pense que ça permet quand même un certain détachement, justement, parce que c'est comme, tu peux pas être super bon dès le début, tu sais, c'est vraiment... travaille depuis des années et des années de pratique, puis ils font encore des erreurs, il y a encore des pertes, fait que c'est vraiment quelque chose qui pratique le détachement.
Puis est-ce que dans tes loisirs avant, tu étais beaucoup dans les loisirs manuels créatifs ou c'était quand même assez nouveau?
Non, j'ai toujours été quand même vers ça, mais j'avais un emploi de jour là avant, 9 à 5 un peu, mais j'ai toujours fait de soir un cours de quelque chose.
Okay.
Fait que j'ai fait de la poterie, mais avant ça, j'avais fait de la couture. J'ai fait du yoga. J'aime vraiment ça, essayer différentes choses.
Puis le faire le saut entre la vie de loisir puis que ça devienne ta vie professionnelle, est-ce que c'était comme tu t'attendais? Comment ça s'est passé?
C'était pas comme je m'attendais. C'est sûr que c'est vraiment différent, tu sais. Depuis le début des faiseurs, là, ça fait 1 an et demi. Depuis le début des faiseurs, je me dis, ah, tu sais, il faut vraiment que je trouve comme 3 heures par semaine où est-ce que je peux en faire pour le plaisir. Mais ça arrive pas vraiment, tu sais. C'est vraiment difficile. Quand c'est ton lieu de travail puis c'est comme que c'est toi la propriétaire, ben c'est vraiment difficile. Le téléphone sonne tout le temps, il y a toujours, tu sais, les gens vont venir me parler parce que je suis là, ils ont des questions, mes employés vont venir me voir, fait que ça, je dirais que non, ça n'a pas été aussi facile que je pensais, tu sais, c'est ça, je me suis pas, mais je le savais, là, tu sais, que ça serait comme ça, là, il y a quelqu'un qui m'avait dit, dans les débuts, là, quand je commençais à parler, tu sais, il y a quelqu'un qui m'avait dit, là, j'espère que tu t'imagines pas que tu t'ouvres un grand studio de céramique puis que tu vas pouvoir aller passer du temps puis être zen dans ton studio, ça va pas arriver, tu sais, c'est vrai, là, que ça arrive pas. Par contre, des fois, qu'est-ce que je fais qui, ça, pour moi, fonctionne quand même bien, c'est que je m'inscris dans un cours, fait que je vais comme prendre une place dans le cours. Ouais. Fait que là, je me dis, bon, ben, là, j'ai pris la place, ça veut dire que quelqu'un d'autre n'a pas pu s'inscrire, fait qu'il faut que j'y aille 3 heures par semaine, puis là, je le mets vraiment dans mon agenda, puis là, je vais le faire dans ces moments-là, puis je vais apprendre des nouvelles choses, puis j'aime vraiment ça. Dans le fond, on a des profs, puis des techniques vraiment différentes, fait que justement, tu sais, moi, j'avais fait du tournage, mais après, chez les faiseurs, j'ai fait un cours de façonnage, j'ai fait un cours de niricomi avec...
C'est quoi, le...
C'est là. Excusez. C'est Marina L'Espérance Lopez, qui est l'artiste Yuma, qui donne une cours chez nous. C'est des techniques de terre colorée. C'est une technique japonaise avec des terres colorées. Fait que c'est super original, c'est super différent. Fait que ça, j'ai fait le cours, j'ai adoré ça. Fait que ça, c'est la façon que j'ai trouvé de comme garder un peu la céramique dans ma vie, pas juste comme une job, mais pour le plaisir.
Puis les gens autour de toi... Parce que ça l'a tout de suite pogné, j'ai l'impression. Ta campagne de sous-financement, t'as déjà une super belle réponse. C'est comme si les gens avaient cette envie-là au fond d'eux. Mm-hmm. J'en parle souvent au podcast, mais j'ai vraiment l'impression que nos vies sont tellement sur un écran qu'on a un craving profond, des fois qu'on se rend pas compte de juste faire des choses avec nos mains.
Ouais.
Ça, c'est mon hypothèse. Fait que les gens qui ont participé à ta campagne ou qui sont actifs encore là à ton studio, ils sont là pourquoi? Quand ils disent qu'ils sont contents ou que ça existe, c'est quoi les raisons qui les motivent à être là?
C'est une bonne question. J'avoue que moi aussi, on dirait que je pense que je peux juste avoir comme des théories, puis que ça change un peu. Il y a différentes personnes. C'est sûr que la poterie, je pense qu'on est quand même... C'est comme populaire en ce moment. T'sais, les gens ont envie d'essayer ça. On en voit de plus en plus. Fait que c'est comme quelque chose qu'on a envie d'essayer. Moi, au début, je m'étais fait faire des sacs là, dans ma campagne de sous-financement qui disait Pottery's the new yoga, mais que dans le fond, il y a quand même un lien avec le yoga d'être méditatif, de se concentrer sur vraiment le moment présent. Fait que je pense qu'il y a de ça. Après, moi aussi, j'ai vraiment voulu créer une entreprise où la céramique, c'était accessible. Puis c'était vraiment là-dessus que je me suis orientée. Je trouvais que la céramique à Montréal, c'était souvent dans des ateliers d'artistes, donc un peu en retrait, pas nécessairement facile d'accès. Puis des sessions de cours, c'était beaucoup ça qu'il y avait sur le marché. Bon, c'est 350$ plus taxes, donc c'est quand même dispendieux si t'es pas sûr d'aimer ça. Fait que moi, je me suis vraiment orientée vers un créneau d'initiation, où est-ce que les gens peuvent venir essayer une activité de 2h30. C'est 55$, fait que ça reste vraiment comme accessible. Mm-hmm. Fait que je pense qu'il y a de ça aussi, c'est comme... je me suis toujours dit que ça serait le fun d'essayer la céramique, puis là, j'ai l'occasion, puis c'est pas très cher, puis ça va me faire vivre une expérience, puis on a un super... c'est vraiment cool parce que chez les faiseurs, j'ai une clientèle qui revient beaucoup. Fait que ça, c'est vraiment le fun pour une entreprise. C'est quand tu te dis, tu sais, les gens, ils aiment vraiment ça. Finalement, ils essayent, puis après, ils s'inscrivent à une session de cours. Puis après, ils se réinscrivent, puis ils se réinscrivent. Mm-hmm. J'ai plein de monde qui sont en train de faire leur 3e session de cours chez nous. Je reconnais les visages dans les cours, fait que c'est vraiment le fun.
Est-ce que tu sens que... Parce que c'est un truc que je me demandais avec les compagnies qui offrent de l'initiation, puis les étudiants qui vous adorent justement, puis qui veulent rester avec vous, genre, est-ce que, dans le fond, les niveaux de cours ont commencé à augmenter pour... Combien les gens qui deviennent meilleurs?
Ben, tu sais, oui, dans le sens que j'ai comme un cours débutant, j'ai l'initiation, après j'ai un cours débutant, puis d'habitude, on recommande aux gens de faire 2 fois la session de cours débutant, mais avec 2 profs différents, comme ça, ils voient 2 techniques différentes, ils s'approprient un peu le tournage. J'ai un niveau intermédiaire aussi, que là, c'est vraiment d'autres choses. Il y a la possibilité de faire du façonnage, fait que des fois, tu fais une session de tournage, là, tu fais une session de façonnage après, le niricomi qui est l'autre technique. Puis après ça, ben j'ai des membres aussi, fait que dans le fond, c'est des gens qui payent au mois, qui peuvent venir de façon libre. On leur donne un espace étagère, ils achètent la terre, puis ils peuvent venir pratiquer quand il n'y a pas de cours. Okay. Fait que ça, c'est comme souvent pour les vrais passionnés là, qui font comme deux, trois sessions avec nous. Après ça, ils s'inscrivent pour devenir membres, puis ils continuent leur pratique un peu de façon autonome. Ça évolue. Après ça, ça évolue pas jusqu'au point professionnel. Là,
parce que le but, c'est ça, c'est pas une soirée qui vient des céramistes professionnels.
Ben, si, mais il y a ça, des écoles pour ça.
Puis, mais je pense que vous avez aussi la manière que je voyais votre espace, c'est vous étiez aussi ouvert à des loisirs créatifs, avec un petit peu plus large. Je pense que vous avez des ateliers de différentes choses.
Oui. C'est sûr que moi, à la base, je voulais pas comme trop m'éparpiller. Je voulais quand même que les faiseurs se soient reconnus pour la poterie. Mm-hmm. Mais j'étais super ouverte. Puis, tu sais, avec un nom comme ça, c'est quand même général à un peu n'importe quoi qu'on fait, qu'on fabrique. Fait qu'on a des cours, dans le fond, dans le café. On a des ateliers qui nécessitent un peu moins de matériel que la céramique, par exemple. Ouais. Fait qu'on a des initiations à la broderie depuis les débuts avec une artiste qui s'appelle Émilie Proulx. Puis aussi, on reste vraiment comme dans l'accessible, tu sais, quelque chose de super accessible. C'est comme une initiation de 1h30, c'est 35$. Fait que ça reste un peu dans la ligne que je voulais, moi, c'est quelque chose que tu peux juste essayer. Je trouve que souvent, les ateliers, c'est super cher. C'est pas tout le monde qui a comme 125$ à dépenser pour essayer quelque chose que j'ai jamais fait avant. Fait que là, ça reste dans cette lignée-là. Puis depuis quelques mois, on donne aussi des ateliers d'initiation à la gouache avec l'artiste Florence Rivet, dans le café aussi. Fait que dans le fond, dans notre espace café, on a comme une grande table qui peut être comme partagée pour les gens qui travaillent, mais ou sur laquelle des fois on donne les ateliers d'initiation comme ça.
OK. Est-ce qu'il faut que tu te retiennes, justement, quand tu regardes ta programmation, de ne pas en faire trop parce que t'es curieuse puis t'as envie de découvrir?
C'est intéressant comme question, mais non, je dirais que non, parce que j'attends un peu que les opportunités viennent à moi, tu sais. Okay. Florence, c'est quelqu'un que j'ai comme rencontré au hasard dans la vie. Émilie, c'est elle qui m'a approchée, tu sais. Moi, je suis pas comme à la recherche de nouvelles personnes pour donner des nouveaux ateliers nécessairement. Aussi parce que je veux que le café reste un espace pour le café, tu sais. Je veux que les gens qui viennent travailler à tous les jours chez nous, ils soient pas tout le temps comme en train de se demander « Ah, y aura-t-il un atelier? » Puis là, je pourrais pas travailler parce qu'il y aura trop de bruit, trop d'action, trop de choses qui se passent ou que toute l'étape va être occupée. Fait que je trouve que c'est important de quand même, tu sais, si je veux un café auquel les gens vont pour le café, ben, il faut leur laisser la place aussi.
Puis, je trouve ça le fun. J'ai l'impression qu'un café, je me rends compte qu'il y a certains types de commerces qui vont avec certaines personnalités d'entrepreneurs. Comme tu dis, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui rêvent d'ouvrir un café parce qu'ils s'imaginent plus être dedans en train de boire un café tranquillement que de vraiment le gérer.
Ouais.
J'ai l'impression qu'un café ou un espace comme ça, c'est un ancrage, là, puis il faut que tu aies une présence régulière. Est-ce que toi, tu as su toute ta vie que tu voulais ce type d'espace-là?
Pas toute ma vie, je dirais pas ça, non, parce que j'ai fait des études en communication, puis j'ai travaillé dans un bureau, mais j'ai travaillé en restauration depuis que j'ai 16 ans, puis j'avais vraiment l'intérêt quand même pour la cuisine, la nourriture, la restauration, c'est un monde que j'aime, fait que je me disais toujours que ça c'était un peu mon rêve d'ouvrir un café, mais pas de façon concrète, c'est un peu comme « ah oui, c'est mon rêve, je ferais ça à un moment donné », puis en étant sur le milieu du travail, puis en vivant un peu de l'insatisfaction, puis en réalisant que c'était peut-être pas pour moi, là, j'étais comme, OK, finalement, mon projet de peut-être ouvrir un café, peut-être avec un concept, t'sais, différent, a comme ressurgi. Puis c'est ça, quand j'ai commencé à faire de la poterie comme loisir, je me disais, ah, tu sais, c'est vraiment ça, dans le fond. Puis il y a un fit, ça marcherait de cette façon-là, avec la céramique faite à la main pour boire le café, avec la section boutique pour faire découvrir les artistes, avec l'atelier à côté.
C'est assez fascinant parce que ça a l'air d'être beaucoup de choses. Ouais. Tu sais, comme de dire, tu fais la bouffe, les cafés, puis la boutique, mais quand on rentre dans l'espace, quelque chose de vraiment harmonieux. Ouais. Puis c'est drôle aussi que la porte d'entrée, c'était pas la poterie, de dire, je veux rendre la poterie accessible, c'était plutôt, je veux un café, mais je veux un concept le fun. Puis t'es comme, agencer ça avec un de tes intérêts
tout à fait.
Du moment.
Oui. Puis, tu sais, je trippais sur la poterie, mais aussi, je trouve que c'est important, en fait, quand tu démarres une entreprise, de réfléchir à qu'est-ce qui crée un peu une valeur ajoutée ou qu'est-ce qui fait que ton entreprise a vraiment lieu d'être. Mm-hmm. Dans le sens que, pourquoi, entre autres, j'ai choisi la poterie? Ben oui, parce que j'aimais ça, évidemment. Mais aussi parce que je trouvais que c'est pas quelque chose qu'on peut faire facilement à la maison. Mm-hmm. Ça prend beaucoup d'équipement, ça prend de l'encadrement, ça prend un four, etc. Fait que je trouvais que c'était comme la bonne activité créative à choisir. Mm-hmm. Parce que c'est une activité pour laquelle tu dois aller dans un lieu équipé pour le mm-hmm. faire, tu sais. Fait que j'aurais pas nécessairement fait un café, je sais pas quoi, mais un café coloriage, où est-ce que tu peux faire du coloriage à la maison facilement. Fait que là, mm-hmm. ben, qu'est-ce qui fait la valeur ajoutée de
qu'est-ce
ton
que la personne
entreprise, pourquoi la personne vient, tu sais.
Ouais.
Fait que...
Est-ce que, dans certaines questions, avec Renard, on s'intéresse à la vie à la maison?
Mm-hmm.
Puis justement, on veut être dans l'accessibilité puis montrer que des fois, il y a des activités qui semblent pouvoir être faites à l'extérieur, mais qui peuvent être aussi répétées à la maison sous une différente forme peut-être, mm-hmm. sous forme de jeu ou même avec les enfants. T'sais, juste de s'amuser avec de l'argile, des ouais. fois, c'est une première étape. Est-ce que toi, tu as une pratique à la maison ou ça se passe vraiment tout au faiseur?
Ça se passe pas mal au faiseur, je te dirais. À cause, justement, comme de l'équipement et tout ça.
Et du fait que tu dois être là tout le temps, finalement.
Oui, aussi. Mais des fois, je ramène des petites choses à la maison, là, justement, pour faire du façonnage à la maison. Puis dans le fond, avant d'avoir les faiseurs, j'avais un tour à mon chalet.
OK.
Fait que je m'étais fait comme un mini atelier dans un coin du chalet avec un tour okay. et tout. Par contre, c'est ça, ça prend le four et tout, fait que c'est quand même impliquant. Mais bon, ça c'est comme la poterie classique ou la céramique classique, mettons, qu'on peut faire cuire l'objet puis qu'après on puisse l'utiliser comme une mm-hmm. tasse. Mais sinon, y a quand même des choses à faire à la maison, comme plus soit avec de la petite argile quand on... Tu sais, quand on est enfant, des fois, on a ça, mais ça, tu peux faire ça comme adulte aussi, tu sais, mm-hmm. trouver de l'argile. Il y a des types d'argile, c'est pas ça qu'on utilise au faiseur, puis ça fera pas de l'argile dans laquelle tu peux boire et manger, mais il y a des types d'argile qui s'achètent dans des magasins créatifs que tu peux cuire au four, okay. Fait qu'ils peuvent, tu sais, faire des petits objets utilitaires là, pour la maison.
Okay.
Aussi, c'est un peu drôle, mais parce que dans le cours de Néricomi, donc avec les argiles colorées, ben Marina elle parle souvent de pâte fimo. Tu sais, quand on est enfant, on fait ouais. comme des trucs avec la pâte fimo, avec des motifs et tout. Puis dans le fond, en Éricomie, on fait un peu ça aussi. Fait que il y a quand même c'est une possibilité à explorer quand même avec la pâte fimo.
La pâte à sel.
Oui, la pâte à sel.
Je me rappelle encore le livre dans lequel il y avait la recette. Finalement, c'est pas même compliqué. Quoi, trois ingrédients, de la farine, du sel, puis puis de l'eau. Non, c'est vrai, finalement, c'est de dire qu'est-ce qu'on peut utiliser juste pour faire bouger ses mains, tu sais. Puis, comme tu dis, la différence, c'est quoi la fonction de l'objet, finalement, tu sais. Ouais. Il y a quelque chose de le fun de créer une tasse puis de pouvoir l'utiliser tous les jours. Ou des fois, avec des enfants, ça peut être juste de faire des objets qui vont... me servir de...
Des petites décorations, là, des petites choses comme ça.
Exactement. Mais moi, j'avais acheté une argile au Dolorama. Ouais. Ils ont des paquets. Puis j'étais curieuse de voir la qualité. Finalement, je m'étais fait mes premiers trucs, c'était un petit chien. Puis il était pas super balancé, fait qu'il tombait souvent, mais genre, ses deux oreilles ont cassé. Ça, comme, fait que là, j'ai réalisé que c'était pas la meilleure argile.
Ou non?
Non, mais je sais pas.
C'était pas à cuire, hein?
Je
connais pas vraiment le
produit. Fait que là, j'ai fait, peut-être que finalement, je vais aller un petit peu plus haut de gamme.
Ouais.
Si je veux garder l'objet, sinon, ben, tu laisses un peu aller.
Tu laisses vivre sa vie.
Oui. Ce qui est le fun, moi, j'avais été supporter de ta campagne de socio-financement. Avec ma sœur, on s'est dit que ça serait une belle activité. Justement, c'est une initiation avec un breuvage. Ouais. C'est vraiment agréable. Et c'est demain, après un an et demi, finalement, que je vais y aller. Parce que vos séances se réservaient des fois en une heure. Vous aviez plus de plage. Puis moi et ma sœur, on n'avait pas réussi à coordonner nos horaires. Puis là, tu disais, il y a certains moments dans l'année où c'est plus calme, puis ça se réserve en une semaine, qui est encore excellent. Ouais.
Oui.
Est-ce que tu peux... Je sais que la campagne de socio-financement, ça l'a fait beaucoup parler, mais je suis quand même curieuse de savoir comment tu as réussi à créer ce sentiment-là de communauté si tôt, avant même d'avoir un espace physique.
Oui. Ben, tu sais, des fois, quand on démarre une entreprise, on le sait pas vraiment. Tu sais, qu'est-ce qui a fait que ça a marché aussi bien? C'est sûr que Tu sais, moi, j'ai un background en com, puis j'ai comme beaucoup misé là-dessus, tu sais, d'avoir une belle image de marque avec les faiseurs, de rendre ça comme visuellement attrayant sur les réseaux sociaux, d'avoir des photos de qualité, etc. Fait que c'est comme un truc un peu classique qu'on dit pour toutes les entreprises, mais je pense que dans mon cas, ça a vraiment participé, tu sais, c'est que... Dans le fond, les lieux où faire de la céramique à Montréal, dans le fond, tu sais, on est trois qui ont pignon sur rue. Fait que, dans le fond, on est trois à être un peu dans le même créneau que moi, mais c'est pas beaucoup, trois quand même. Fait que tous les autres, ben, c'est plutôt des céramistes personnels qui vont travailler sur leur propre marque à eux, de leur objet. Puis qui vont donner des cours de temps en temps, tu sais, une fois par semaine, juste pour comme arrondir un peu. Fait que je pense que les faiseurs, c'est vraiment positionné comme un endroit pour apprendre. Tu sais, nous, moi, j'ai pas de production personnelle. C'est pas un atelier dédié à la production, c'est un atelier dédié à l'enseignement. Fait que les gens, ils ont senti qu'ils étaient comme le bienvenu là-dedans. Puis je pense que l'aspect café contribue quand même vraiment à ça parce que... Tu vas pas rentrer dans un atelier pendant qu'il y a des gens qui travaillent si t'as pas vraiment ta place là, tu sais, si t'es jamais rentré puis tu connais personne, puis ça peut créer, je pense, un peu un sentiment de comme...
C'est intimidant, là.
Ouais, c'est un peu intimidant. Alors que quand tu rentres dans ce café, ben, il y a quelqu'un qui est là pour t'accueillir. Tu peux juste prendre un café, tu peux juste regarder. Il y a une section boutique chez nous, alors il y a des gens, tu sais, qui viennent juste regarder la boutique. Fait que c'est vraiment un espace, je pense, facile d'accès, facile de rentrer sans te sentir comme...
Quand les gens voyaient ça, l'œuvre de ce financement, ils disaient « Ah, je ferais peut-être de la céramique » ou ils disaient « Dans tous les cas, je vais pouvoir profiter de l'espace. »
Oui.
Que tu as envie d'en faire.
Tout à fait.
Mais avec...
Puis beaucoup, les passants, les gens marchent là, sur la rue Saint-Laurent, c'est quand même passant. Ils voient les gens qui font de la poterie, puis là, ils sont comme « Hey, wow, ça a l'air cool! » Puis là, ils voient qu'il y a un café, puis ils peuvent juste rentrer poser des questions tout de suite. T'sais, c'est tellement facile, ils n'ont même pas besoin d'aller sur le site Internet pour voir. Ils rentrent, puis ils peuvent parler à quelqu'un qui est là pour les accueillir. Ils n'ont même pas besoin de déranger quelqu'un qui a les mains dans l'argile.
Ouais.
Fait que je pense que ça contribue vraiment, vraiment à cet engouement-là.
Parce que j'imagine les passants qui arrêtent, puis qui regardent, tu sais, quand tu regardes par la vitre parce que t'es intrigué. C'est le fun, mais tu te sens mal de rester là 15 minutes tandis qu'au café, tu peux le faire. Ah oui, vous avez des...
On a des voyeurs.
Des observateurs.
Oui, beaucoup des gens dans la rue. Surtout avec les enfants, tu sais, les enfants, ils sentent pas mal de rester pendant 15 minutes pour regarder. Fait qu'ils font.
Mais vous avez des ateliers par enfant maintenant?
Oui, on a des ateliers par enfant, on a des ateliers pour les enfants tout seuls aussi. Okay. Puis les parents prennent un café pendant ce temps-là, fait que c'est le fun aussi. Puis oui, sinon, les gens vraiment curieux, là, ils peuvent s'installer au comptoir dans le café. Il y a comme des grandes fenêtres qui donnent sur l'atelier, fait qu'ils vont voir les gens travailler.
Puis, avant de lancer ta campagne, est-ce que tu avais une impression, justement, qu'il y avait des demandes, qu'il y avait des insatisfactions, qu'il y avait besoin d'accès, ou t'as plus lancé ça dans l'univers, puis t'as été...
Non, je le savais quand même un peu, dans le sens que... moi, je faisais de la céramique déjà, puis quand je faisais mes cours, j'en parlais beaucoup autour de moi, mais j'avais jamais ressenti autant un intérêt pour une activité comme ça. Tu sais, je dirais comme une personne sur deux me demandait « Ah, c'est où que tu prends tes cours? C'est compliqué, prendre des cours de céramique, c'est tout le temps plein. » Fait que, tu sais, à force de me faire dire ça, j'étais comme « Ah, OK, apparemment, ça intéresse beaucoup de gens. » Puis, je faisais des petites recherches, en fond, sur les offres qui existent, puis je voyais que c'était tout le temps complété. Fait que c'est sûr que ça, c'est comme un bon indicateur de voir que qu'est-ce qui est déjà sur le marché fonctionne super bien, est toujours plein, que ça répond pas à la demande. Puis finalement, avec les faiseurs, je le vis aussi, tu sais, en février, dans le fond, quand j'ai mis mes cours en ligne, ça s'est vendu en comme super, super rapidement. Là, en quelques heures, j'avais plus de place pour tout le mois. Fait que il l'a demandé, là.
Ah, je suis vraiment contente pour vous. Parce qu'on marche, on marche tellement souvent. Puis moi, ça me fascine de comprendre. Moi, je viens d'un background de com et de marketing, mais j'adore observer comment les espaces font interagir les humains différemment, la vibe ou l'esprit d'un espace, puis de comprendre que des fois, deux commerces, un à côté de l'autre, il y en a un qui est complètement plein, puis l'autre qui est vide, puis c'est difficile à expliquer comment il y a un esprit, il y a comme une norme à certains endroits, puis je trouve que chez vous, il y a une belle présence dans votre espace. Toi, ça t'a pris combien de temps le mettre sur pied,
cet esprit? Dans le fond, j'ai eu l'idée un peu moins que 2 ans avant d'ouvrir.
OK.
Fait que dans le fond, disons, à l'automne 2016, j'avais l'idée, j'ai commencé à en parler autour de moi. À l'hiver, je me suis inscrite à un cours en démarrage d'entreprise,
okay.
qui était de soir. J'ai monté mon plan d'affaires. Après ça, trouver un local, c'est lent, tu sais, quand t'as quelque chose de comme assez spécifique en tête. Fait que j'ai commencé à chercher un local à l'été 2017. Puis finalement, j'ai pris mon local en avril 2018.
Okay.
Fait que ça a quand même pris plusieurs mois à trouver le local. J'en ai visité plein, négocié, faire les travaux après.
Puis, OK. Voilà. Parce que...
Puis j'avais un emploi, tu sais, quand même, j'avais un emploi à temps plein. Okay. C'est sûr qu'il y a des gens qui... T'sais, j'ai quitté mon emploi quand j'ai eu le local. Fait que je faisais ça de soir.
Okay.
Toute la mise en œuvre, le plan wow. d'affaires et tout.
C'est incroyable. Je pense qu'il y a l'image qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui quitte sa job en disant... C'est genre... je me lance à temps plein, mais je pense qu'il y a beaucoup plus de gens, en fait, qui font ça à temps partiel. Puis justement, qu'il y a une balance un peu difficile. Des fois, quand tu essaies de conjuguer les deux, finalement, tu fais le saut.
Oui, mais j'aurais pas pu garder mon emploi. T'sais, avoir un commerce pignon sur rue, c'est vraiment... de l'énergie, là. Faut être là tout le temps. Il y a toujours quelque chose. C'est une structure physique lourde, mm-hmm. avec des choses qui brisent, avec des gens à gérer et tout ça. T'sais. C'est pas comme une entreprise plutôt virtuelle, disons.
Mm-hmm.
Sauf que, bon, après, t'sais, justement, si ça prend 2 ans, tout préparer pour jusqu'à l'ouverture, c'est beaucoup de temps à vivre sans salaire, c'est mm-hmm. du quitte ton emploi.
Mais non, félicitations. Puis, est-ce que l'offre pour les familles était là depuis le début ou c'est une demande qui a comme émergé?
C'est une demande, mais quand même vite, disons. Mais quand j'ai ouvert, j'avais juste des cours adultes, c'était juste à ça que j'ai pensé, mais assez vite, comme dans les premières semaines, il y a des gens qui m'ont dit « Ah, oh, est-ce que tu fais des cours pour enfants? » Je pense qu'à cause du café céramique, peut-être, les gens ont un peu cette idée. Avaient un peu, plus maintenant, mais avaient un peu l'idée comme « Ah, oh, j'amène mon enfant là, puis on peut faire quelque chose, tu sais. »
Ouais.
Fait que là, dès le début, dans le fond, j'avais de la demande un peu pour des enfants, fait qu'on a commencé à faire un atelier pour enfants une fois par mois.
OK.
Pour les petits, dans le fond, c'est un atelier pour les 5 à 8 ans de façonnage. C'est okay. souvent les matins, la fin de semaine, fait que les parents, ils lisent le journal dans le café, puis ça fait comme un petit moment de répit. Fait que ça fonctionne super bien, mais c'est sûr que le cœur de ma clientèle, c'est vraiment adulte. Là. C'est des cours pour adultes, c'est ça qu'on fait 2 fois par jour. Une fois ou 2 fois par mois, on va faire des activités avec les enfants.
Y a-t-il des fêtes? Est-ce qu'il y a des demandes de fêtes d'enfants? Ou c'est quand même une certaine...
Oui, mais j'ai des demandes de fêtes d'enfants, mais c'est pas comme vers ça que je suis orientée, disons, ouais, parce que j'aime ça donner des cours aux enfants, on aime ça donner des cours aux enfants, mais dans un contexte de fêtes d'enfants, mais souvent, il y a comme un gâteau, des cadeaux, etc. Ouais. Là, ça demande comme une autre gestion. Ouais, ouais. T'sais, au début, je disais oui, on en faisait, puis à un moment donné, j'étais comme « ça fonctionne pas, tu sais ». La professeure, elle essaie de passer la mop pendant que les enfants sont en train de manger du gâteau, c'est comme... L'espace n'est pas conçu pour ça. Si j'en ouvrais un autre, peut-être que ça serait passé différemment.
Mais oui, je comprends.
Avec un espace plus dédié à ça, parce qu'il y a beaucoup de demandes, mais pour l'instant, ça se prête pas vraiment. Fait que j'ai plus souvent des fêtes d'adultes, mais que ça va être comme une activité. Tu sais, genre, on va aller faire mm-hmm. ça en gang, puis après, on va souper au resto pour la fête de la personne.
Ah oui, ça fait du sens. Comme tu dis, le prix est abordable, fait que ça fait comme une soirée, tu sais. C'est fou, maintenant, le cinéma, ça coûte... Je me rappelle quand j'habitais à Laval puis on allait au cinéma top, ça coûtait 5$. Tu sais, comme maintenant, une soirée là, à deux, ça, justement, si tu veux faire un truc avant, ça va coûter le prix d'une place, je trouve, au café céramique. Fait que je trouve que c'est vraiment judicieux. Ton range de prix, genre, c'est tout à fait accessible. C'est vraiment intéressant. Puis là, on parle beaucoup des gens qui sont tes clients. Mais il y a aussi, en fait, tes professeurs. J'ai l'impression que ça doit être vraiment agréable pour des profs qui ont justement l'habitude de devoir sous-louer un espace de studio. Bon, t'as un studio, puis je pense que les coûts sont assez faramineux quand il faut gérer un four. Et que là, eux aussi, ils ont un espace, dans le fond, pour rencontrer des gens, puis travailler
Ben, je veux pas comme parler pour eux. J'aurais leur demander. Excuse. mais moi, c'était un peu mon thinking, dans le sens que... quand tu es un céramiste professionnel puis que dans ton atelier, tu fais de la production puis tu as toutes tes centaines de pièces super fragiles, tu veux pas que les gens touchent à ça. Tu n'es pas non plus nécessairement équipé pour enseigner à 8 étudiants. T'sais, acheter 8 tours, ça coûte cher. Tu n'as pas l'espace pour stocker ça. Fait que dans le fond, moi, c'était un peu ce pari-là que j'ai pris, me disant, ben moi, je vais faire une école, les profs, ils vont venir, une ou deux plages horaires par semaine. Fait que dans le fond, ils vont avoir quand même un bon salaire à enseigner.
Mm-hmm.
Mais dans un espace qui est dédié à ça, ils n'auront pas besoin de faire de la place dans leur atelier, de ranger leurs affaires pour être sûr que ça ne brise pas, de trouver de la place pour stocker les pièces des autres. Fait que oui, c'est ça. Puis après, ben, c'est sûr que c'est comme un des espaces de céramique les plus lumineux à Montréal, là, avec les fenêtres qu'on a, les grandes fenêtres et tout. Souvent, les studios, c'est dans des espaces plus industriels, les studios d'artistes. Fait que, mm-hmm. Alors que un local Pignon sur Rue qui a été rénové pour faire ça, c'est vraiment une ambiance différente. Fait que je pense que oui, c'est une ambiance agréable, j'espère, pour eux de venir enseigner chez nous.
Puis dans les offres de cours, parce que là, comme tu disais, vous avez le tournage, le façonnage, la...
L'éricomie.
Oui, l'éricomie. Y a-tu d'autres approches que toi, tu regardes de côté ou que tu te demandes si tu veux l'amener dans la programmation?
Pour ajouter, tu veux dire?
Tester ou toi, personnellement, s'il y a des trucs que tu regardes que tu te dis, oh, on va essayer ça.
Je suis vraiment pas fermée à l'idée, mais honnêtement, on dirait que des fois, c'est comme la vie, on est tellement pris dedans. Puis j'ai tellement de demandes pour mon offre actuelle que j'explore pas tant que ça parce que c'est comme... J'ai pas assez de plage horaire.
Mm-hmm.
Tout est déjà comme complet. Mais oui, dans le fond, des fois, on pense un peu à des ateliers plus de perfectionnement, plus de, mm-hmm. des techniques spécifiques qu'on donne pas dans les sessions de cours. Fait que oui, je suis tout le temps comme super ouverte à réfléchir à ça puis à faire évoluer ça. Mais je passe pas comme des heures et des heures mm-hmm. à chercher qu'est-ce qu'on devrait faire pour la prochaine fois, parce que je suis encore un peu plus dans la réaction de comme, vite, oh là, le 15 arrive, faut que je mette mes cours mm-hmm. en ligne, faut que je fasse l'horaire, etc.
c'est bon de savoir que tu es tellement occupée que, justement, éventuellement, peut-être que tu vas, j'imagine, déjà oui. Là, après un an et demi,
oui.
Tu dois plus connaître le cycle de ton commerce. Ouais. Puis
tout à fait. Mais tu sais, un an et demi, c'est comme, ça passe tellement vite, tu sais, je suis vraiment dans une phase où ça fait un an et demi, puis tout le monde me demande qu'est-ce que je vais faire maintenant, tu sais, qu'est-ce que je vais faire prochainement, est-ce que je vais en ouvrir un deuxième, comment je vais gérer la suite, alors que moi j'ai l'impression qu'on vient juste d'ouvrir encore, tu sais.
Ouais.
Mais c'est vrai que si j'y repense là, de façon concrète, quand on venait juste d'ouvrir, maintenant j'ai beaucoup plus de temps pour réfléchir à mon entreprise, puis où j'y vais avec ça. Je suis un peu moins dans la réaction, mais je suis pas non plus... complètement reculée, puis ah mm-hmm. oui, j'ai pensé à ça, on pourrait essayer.
Comme tu dis, en train de prendre ton café tranquillement dans ton espace. Mais à la classique question, est-ce que tu penses en ouvrir un autre? Est-ce que c'est ta vision de un peu multiplier ou te connaissant, t'es trop touche à tout, puis tu feras un autre concept? Ou...
Je sais pas, c'est comme une grande réflexion que j'ai justement ces temps-ci. J'ai comme des opportunités pour peut-être en ouvrir un autre, peut-être pour agrandir. Je suis vraiment en réflexion, fait que je sais pas, je veux pas comme m'avancer trop.
Mm-hmm.
Par contre, c'est sûr que là, tu sais, après un an et demi, il y a tellement de demandes que si je veux répondre à la demande de mes clients, faudrait que je fasse quelque chose. Mm-hmm. Faudrait que je fasse quelque chose d'autre, de plus, soit une deuxième salle ou autre. Fait que c'est vraiment quelque chose sur lequel je réfléchis. Mais je suis vraiment comme dans cette étape-là, un peu de comme, OK, ben là, tout va bien, puis j'ai l'impression que tout est allé vite, puis j'ai jamais réfléchi depuis un an et demi à qu'est-ce qui serait ma prochaine étape. T'sais, j'ai juste réfléchi à qu'est-ce que je dois faire pour que ça marche.
Ouais.
Fait que là, je suis là-dedans.
Parce que là, on est à Montréal, t'as des gens d'autres villes qui sont comme, s'il te plaît, viens à Québec.
À Québec, j'en avais beaucoup au début, là, un petit peu moins, on dirait, mais au début, j'en avais beaucoup, mais moi, je ferais pas ça, c'est sûr.
Considérant le
voyagement et tout, là. Par contre, t'sais, Moi, je suis un peu comme selon les opportunités. T'sais, si je rencontrais quelqu'un qui était comme, c'est mon rêve d'ouvrir les faiseurs à Québec, est-ce que ça te tente?
Ben, tu lui fais confiance.
Oui, c'est de l'accompagnement et tout ça. Mais moi, j'ai toujours. Ça, c'est comme la seule chose que je dis depuis le début, c'est que c'est sûr que moi, je veux pas passer mon quotidien à être dans ma voiture entre mes différents commerces. Mm-hmm. Non.
Non, je comprends.
Puis ça va vraiment pas avec le mode de vie que je veux. T'sais. On en parlait très rapidement tantôt, mais dans le fond, moi, j'habite à 15 minutes à pied de mon commerce. Je fais des courses à pied, je vais au marché Jean Talon, je vais à la boulangerie au coin de la rue à tous les jours. sur le chemin vers les faiseurs. Puis c'est ça la vie que j'aime. Tu sais, je croise mes clients au marché Chantalon, je croise mes clients dans la rue quand je vais chercher une crème glacée l'été. Puis c'est ça que j'aime, tu sais. Vraiment comme la proximité, puis tout faire à pied, puis être proche. Puis c'est ça un commerce de proximité, puis qui a pignon sur rue aussi. Après, bon, les faiseurs ont quand même un angle un peu destination. Tu sais, mes clients du café, c'est ceux que je vais voir partout dans la vie de quartier, parce que c'est ceux qui viennent des environs, mais les clients de la poterie viennent de loin des fois. Tu sais, j'ai des clients qui viennent de Gatineau, là, de Ottawa, tu sais, de la rive sud, de la rive nord, de partout à Montréal.
Ils prévoient venir à Montréal, puis ils t'ajoutent dans leur ils sont la raison pour laquelle ils décident de faire un voyage.
Ouais.
Ah, c'est génial. Ah, mais c'est vrai, l'idée d'une vie de proximité, la qualité de vie est juste incroyable. Mm-hmm. Moi, j'ai grandi à Laval. T'as grandi...
À Montréal.
À Montréal, ouais. Okay. Puis mes parents, que j'adore, sont super routiniers. Ma mère a travaillé 35 ans au même hôpital, à 5 minutes de voiture. Elle était jamais en retard. T'sais, était vraiment... Puis pour eux, Montréal, c'est la grande ville où il y a du trafic, puis il y a du bruit, puis... On dirait que moi, ma perception de la ville, c'est tellement pas ça.
Oui.
Non, c'est, aïe, je peux aller partout à pied. Moi et Vincent, on a une routine le matin. On marche tous les matins. Hein. Dans le fond, on se lève, on fait un peu de vaisselle, des affaires, j'arrose les plantes, puis après, on part marcher. Ça démarre juste bien la journée, puis ça nous fait voir puis vivre le quartier de manière inégalée.
Oui.
Puis avant, je faisais beaucoup de vélo. Mais le vélo... Moi, j'adore, c'est super efficace, mais il faut que tu sois alerte parce que il y a un risque supplémentaire. Ouais. Tandis qu'à pied, tu peux flâner. Puis j'ai découvert des commerces comme ça, la chocolaterie, Havana. Tu sais, juste, des fois, tu passes à des endroits plein de fois, puis on dirait que tu ne remarques pas.
Oui.
Puis j'ai réalisé à quel point c'était tellement précieux d'avoir cet ancrage-là, puis de connaître les gens de notre quartier, les commerçants.
Oui, tout à fait.
Est-ce que toi, quand tu cherchais... tes locaux, t'as délibérément cherché dans un rayon proche de chez toi?
Oui. Pour ça, tu sais, maintenant, c'est un peu moins pire, mais au début, les heures, la quantité d'heures que je passais sur place là-bas, c'était vraiment... Il fallait que ça soit proche de chez moi, tu sais, quand je passais comme de 7h à 10h le soir, toute la journée là-bas, ben, j'allais pas faire une heure en plus après pour rentrer chez moi, puis... Même quand je cherchais mon local, je savais que ça allait être comme ça. Fait que je savais qu'il fallait que je trouve quelque chose de quand même proche pour ma qualité de vie, mais aussi pour ce que je connais, tu sais. Faut comme... Je trouve quand tu t'établis quelque part avec un commerce pignon sur rue, ben faut que tu connaisses ta clientèle. Fait que, tu sais, moi, mon réseau est vraiment ici, autour d'ici. C'est des gens que je sais qui auraient de l'intérêt pour les faiseurs. Fait que c'est pour ça, dans le fond, que je cherchais dans les environs. Autant pour moi que pour la clientèle. Parce que c'est ça que je connaissais.
Est-ce que tu avais... Parce que le quartier devient de plus en plus populaire. On entend beaucoup parler de l'augmentation des prix des loyers. Est-ce que tu avais une crainte que, justement, ce quartier-là que t'adores, t'allais peut-être pas pouvoir trouver une place? Je sais pas c'est quoi l'état du commercial,
mais... Il y a quand même beaucoup de commerces à louer, mais c'est sûr que c'est vraiment très cher. Là. Je ne veux pas m'embarquer dans cette discussion sur les prix des loyers commerciaux. Mais disons que c'est vraiment pas facile, tu sais, d'avoir un local pignon sur rue. Les taxes municipales de la ville, que la ville impose aux commerces, c'est tellement cher. Puis mon loyer est très cher aussi. J'ai de la chance parce que ça fonctionne. Puis que c'est populaire, la poterie, puis ça fonctionne bien, mais tu sais, vraiment, pour une ville qui veut encourager les petits quartiers, les petits commerces de quartier et tout, on n'est pas dans la bonne direction parce que, tu sais, juste pour mettre un chiffre, mais moi, dans mon local, je paye 18 000 $ de taxes par année. Tu sais, c'est juste comme incroyable, tu sais, quand tu penses à ça. Tu te dis, je paye plus cher de taxes dans mon local commercial que mon loyer, tu sais, d'appart. Fait que...
J'avais aucune idée des chiffres. En fait, je suis juste curieuse parce que à Parkex, il y a aussi le quartier d'intelligence artificielle qui arrive. Fait que moi, j'étais un petit peu nerveuse de dire, est-ce que le quartier que j'aime un jour, tu sais, je pourrais plus me l'offrir? Fait que je me disais, aller avoir un commerce, tu sais, comme tu dis, tu fais un travail sur l'ordinateur virtuel, c'est sûr qu'il y a des coûts, mais c'est pas comme avoir une facture de loyer à chaque mois que tu dois absolument payer. Oui. Mais c'est pas le domaine que je connais particulièrement, fait que...
Mais tu sais, moi, j'adore ça, tu sais, avoir un commerce, comme... Puis je trouve que ça fait vraiment partie de la vie de quartier, tu sais. À Villeray, on le voit, puis là, on est juste à côté de la rue Castelnau, mais la rue Castelnau, c'est tellement cute, tu sais. Tous les petits commerces sont tellement charmants et tout, mais si on veut garder ça, il faut que la ville... mettre en place des mesures pour aider les petits commerces à ouvrir puis à fonctionner, parce que c'est tellement riche, mais après ça, tu sais, on se demande pourquoi tous les locaux sont fermés sur la rue Saint-Denis, tu sais, mais c'est parce que, mon Dieu, c'est pas facile d'avoir les ressources pour faire ça, tu sais.
Ouais, ah, absolument. Puis c'est ça, je me rends compte qu'il y a quelque chose de tellement unique dans des petits commerces individuels comme ça, qui ont chacun leur personnalité, puis que c'est ça qui augmente définitivement la qualité de vie pour les citoyens. Juste visuellement, qu'il y a des beaux locaux qui sont bien aménagés. Puis c'est drôle à dire, mais qu'il y a de l'amour, là. Comme on dirait que ça se sent, tu sais, entre certains commerces, c'est sûr qu'ils vont être fermés. Fait qu'il y a comme rien qui se passe ou des commerces négligés. Mais merci de. Pour vrai, comme je trouve que c'est tellement. Je trouve ça admirable des gens qui aiment tellement ce qu'ils font puis qui ont le courage de le faire malgré les barrières. Parce que moi, dans ma tête, l'idée d'avoir un local un jour, il y a un engagement vraiment important. Puis. La responsabilité financière, en tout cas, c'est on oublie que c'est l'entrepreneur qui va porter ça pour être capable d'offrir quelque chose aux gens.
Puis... Ça donne vraiment le vertige pour vrai au début, là. Quand j'ai signé mon bail, là, je me souviens, j'étais comme « oh là là ». Le montant de loyer que je paye, c'était comme plus que je faisais en salaire, tu sais, dans ce temps-là, au complet. Je pensais deux fois plus que ce que je faisais en salaire. J'étais comme « ok, je m'engage pour ça, tu sais, j'espère que ça va marcher parce que... » C'est ça. Mais après, tu sais, ça fonctionne, puis c'est super. Mais c'est sûr que pour moi, avoir un commercial vraiment... Là, on dérape vraiment sur un autre sujet. Mais ça a vraiment changé quand même ma vision par rapport aux autres commerces, tu sais. Des fois, tu sais, on passe devant des commerces, puis on se dit, ah, tu sais, on dirait qu'il y a personne, je sais pas si ça me tente de rentrer, tu sais. Mais là, moi, j'ai vraiment changé cette vision-là parce que je me dis, ah oui, mais en arrière, il y a quelqu'un qui travaille tellement fort pour que ça marche, le commerce, là, fait qu'il faut rentrer, tu sais. Puis peut-être que c'est extraordinaire, puis qu'il y a juste pas des forces en com, puis il a pas réussi à faire parler de lui et tout. Fait qu'on dirait que je suis vraiment, vraiment plus portée maintenant à essayer des nouvelles choses, à rentrer dans des commerces différents dans lesquels je serais jamais rentrée avant.
Ah, c'est bien. On fait ça aussi par l'entourage. Puis, de commencer à juste jaser avec les gens. Tu sais, comme si tu vas à l'épicerie régulière et tu commences à jaser avec la caissière, ben ça fait sourire, mais c'est pas la même impression que quand tu apprends que c'est le fondateur et qu'il te parle de pourquoi il a créé son commerce. Ouais. Ça veut dire qu'il y a des histoires qu'il n'y aurait pas autrement. Il y a quelque chose de. Il y a une belle richesse.
Puis, qu'est-ce qui est vraiment le fun aussi, qui là m'arrive de plus en plus, c'est quand il y a des gens qui sont. Là, depuis le début, tu sais, j'ai une équipe vraiment stable. J'ai des gens qui sont là depuis le début, autant dans l'atelier que dans le café. Puis là, quand t'entends ton équipe ou les gens parler de toi ou de comment t'as fondé l'entreprise à quelqu'un d'autre, tu sais, ça, c'est vraiment cool aussi. Je me dis, la première fois que j'ai entendu une des membres, dans le fond, qui est une céramiste qui donne des cours et qui a son atelier chez nous, raconter à un de ses amis comment les faiseurs étaient nés. Je me suis dit, ah, wow, le storytelling est vraiment là, tu sais, elle s'est comme appropriée l'histoire du lieu, puis là, elle la partage aux autres, puis je trouvais ça vraiment beau.
Est-ce que c'était, parce qu'il y a quelque chose, dans ton, j'arrête pas de te lancer des fleurs, mais je pense que les gens, je vous encourage à aller voir le site web si vous êtes à Montréal, passez devant le café, parce que c'est vraiment joli. Est-ce que c'est, j'ai l'impression que c'est un effort délibéré, en fait, que de passer sur... créer cette ambiance-là, l'image de marque, l'histoire autour, j'ai l'impression que tu définitivement comme un flair pour ça, puis tu as mis les efforts là-dedans pour que ce soit aussi harmonieux, parce qu'on se rend pas compte des fois, justement, derrière une marque, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Ouais.
Ben moi, je travaille en image de marque avant, dans une agence d'image de marque, fait que c'est sûr que ça faisait comme 2 ans que j'étais là-dedans. Puis pour le design, dans le fond, j'ai travaillé avec... Catherine, donc c'est
deux pour l'aménagement filles, intérieur?
Ouais, okay. Pour l'aménagement intérieur. Puis pour moi, ça c'était comme un must, disons, tu sais. Je pense qu'il y a des gens qui ont un flair pour la déco, qui sont capables de créer des choses harmonieuses, tu sais, chez moi, c'est beau, là. Mais prendre un espace vide, puis là, on pourrait peut-être aller voir les photos du local quand je l'ai pris, mais mm-hmm. tu sais, prendre un espace vide puis créer un lieu cohérent comme ça, j'aurais pas réussi toute seule, tu sais. Mm-hmm. C'est comme
la c'est juste de plus
une autre
de...
réflexion, ouais. tu sais. Dans un grand carré vide, comment tu vas créer deux espaces qui vont communiquer une belle ambiance, que les gens vont sentir bien de rentrer, etc. Fait que dans le fond, je lance des fleurs à Catherine à mon tour parce que c'est vraiment avec elle qu'on a réussi à créer ça. C'est sûr que ma physio était vraiment là aussi, mais ça a été vraiment un travail d'équipe pour réussir à créer ça.
Fait que pour les gens qui sont pas à Montréal,
oui.
que là peut-être qu'ils vont avoir des fourmis dans les jambes puis ils vont avoir envie de venir te visiter.
Oui.
Mais mettons qu'ils planifient pas venir à Montréal bientôt, est-ce qu'il y a des ressources, des livres ou des choses que toi, des coups de cœur que tu as eus par rapport à la poterie qui t'inspirent ou juste de voir des fois dans ton Instagram certains artisans ou certains de vos céramistes que pour s'initier ou apprendre un petit peu plus, se mettre dans l'ambiance sans nécessairement aller au café?
Oui, ben c'est... Il y a plein de choses pour l'inspiration, mais c'est sûr que Pinterest est vraiment comme une belle source d'inspiration. moi, j'ai des tableaux Pinterest là, pour les faiseurs, si jamais les gens ont pas envie de se lancer okay. partout ou cherchent comme un début là, pour chercher. Mm-hmm. Il y a des tableaux sur le tournage, sur le façonnage, sur les décors, fait que ça donne un peu une possibilité, un aperçu mm-hmm. des possibilités infinies. sinon, les vidéos de poterie, c'est vraiment populaire. J'en ai pas comme en particulier à recommander, mais
juste
sur YouTube, regarder des vidéos de poterie. C'est vraiment okay. le fun, c'est vraiment zen quand même. C'est comme un autre.
Il y en a que c'est juste des artisans qui font de la poterie ou qui enseignent? Parce que quand tu dis c'est relaxant, c'est parce que c'est des artisans qui se filment travailler.
Qui se filment travailler, qui se filment en train de faire des grosses okay, okay. pièces.
Fait que c'est pas nécessairement des instructions, mais tu peux juste observer puis genre...
Mais il y en a des instructions aussi, puis c'est vraiment populaire. Beaucoup de gens, beaucoup des membres chez nous, par exemple, là, fait qu'ils sont rendus quand même assez loin, mais pour apprendre une nouvelle chose, ils vont regarder sur YouTube différentes techniques mm-hmm. pour faire des assiettes. Puis là, ils vont essayer après, okay. YouTube en général. Pinterest, YouTube, je dirais, ouais, pas mal ça. Des puis, ben, sinon, ben, regardez tout ce que les artistes québécois font. Tu sais, il y a un événement qui s'appelle Mille et un pots qui est à Val-David.
Comment? Mille et un pots?
Mille et un pots. À Val-David, à chaque été, ça dure presque tout l'été. Je pense que ça dure 8 semaines. Puis c'est vraiment, c'est à l'extérieur, puis il y a vraiment beaucoup d'artistes céramistes qui participent à ça. Fait que c'est vraiment un beau lieu d'inspiration pour voir toute la diversité de mm-hmm. pièces qui existent.
Un bon, un grand rassemblement.
Ouais.
C'est le fun. Est-ce que vous avez une présence là?
Non, parce que nous, dans le fond, vu qu'on ne fait pas de production, on n'a pas comme des pièces à vendre. Mm-hmm. Mais les professeurs, dans le fond, qui enseignent chez nous, il y en a plusieurs qui sortent.
Votre réseau. OK, parfait. Et si les gens veulent vous suivre, vous, sur les médias sociaux?
Oui, ben Instagram. Je dirais que c'est sur Instagram que beaucoup. Je suis le plus active, donc c'est Les Faiseurs. Sur Facebook aussi quand même, sur notre site web. Ça se trouve assez facilement.
Ouais. Fait que sur le site web, dans le fond, d'aller voir l'offre de cours que vous avez.
Oui.
Puis donner le conseil de réserver quand même rapidement.
Oui.
Ça repart vite. Fait que demain, je te donnerai du feedback. Fait que demain, oui. soir avec ma sœur.
Oui, tout à fait.
J'enverrai une photo de ce que... De
vos créations.
Oui. Ouais. Excellent. Parce que vendredi soir, t'es-tu un petit congé vendredi soir ou on va se revoir en fait demain?
Le vendredi soir, je suis pas là.
OK. Bon, mais je pense à toi.
Je pars, je vais partir vers 5h.
OK, OK. Bon, mais parfait. Bon repos, c'est mérité.
Merci.
Merci d'être avec nous encore.
Ben, ça m'a fait plaisir.
Merci d'être avec nous.
Moi, c'est Vincent. Je suis normalement derrière la caméra.
Si vous voulez faire partie du mouvement et apprendre avec nous comment améliorer le quotidien, venez nous rejoindre dans le Club Renard.
C'est la meilleure façon de contribuer à la mission de Renard, puis vous allez avoir accès à plein de contenus bonus.
Venez nous rejoindre au renard.ca/club.
À bientôt!